My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. My life is starting over again, my fame is spreading across the land. Now I've got me a band, my fame is spreading across the land. The years of suffering and pain, there's no one to blame except myself. But my life is starting over again, my time is fleeting fast, it just won't last, I forgot. My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. My life is starting over again, over again, over again.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence et qui fait sa rentrée chez vous après une petite pause estivale, passer à boire des caipirinha dans des endroits exotiques en exploitant des pauvres gens, comme tous les vacanciers européens typiques. Et vous venez d'entendre une chanson de Daniel Johnston, My Life is Starting Over Again. Et on a pensé que c'était un morceau indiqué pour signaler qu'il était mort. Voilà, sa vie recommence, il est mort, il est parti au pays de Casper le fantôme et d'autres personnages qu'il adorait tant, King Kong, etc. etc. Bon, c'est un musicien américain, un peu cinglé, très très sympathique. Voilà, il est mort 58 ans d'un arrêt cardiaque, d'après le Guardian. Et ce soir, on va vous présenter...
Alors, ce soir, on vous parle pour cette émission de rentrée d'un livre de James C. Scott, qui est un anthropologue américain. Alors, un politiste. Donc, tu vas nous expliquer cette nuance subtile entre l'anthropologie politique et le politiste qui s'appuie sur l'anthropologie. Parce que c'est une question dont on ne sort pas, en fait, depuis des années.
C'est vrai. Alors, livre... Non, je ne l'expliquerai pas, parce qu'on va rester coincé dans cette, dans cette indécision.
Je vais répéter le nom du gars, quand même, hein, parce que ça, c'est pas rien. James C. Scott.
Alors, c'est un Américain, donc il a toujours un deuxième prénom qui fait chier.
Alors, le livre a été traduit en français en 2019, c'est-à-dire que c'est vraiment une traduction récente.
Pour une fois, on est dans l'actualité.
On est dans l'actualité pratiquement la plus brûlante. Par contre, le livre lui-même a été publié en 2017. Il s'appelle Homo Domesticus et il est sous-titré Une histoire profonde des premiers États. Alors, c'est un titre et un sous-titre alléchant. Et James C. Scott la réputation d'être une des figures de ce qu'on appelle les sciences politiques ou l'anthropologie politique anarchiste contemporaine, qui a ses lettres de noblesse avec des gens comme David Graeber notamment, et puis qui a l'héritage d'auteurs dont on a déjà parlé ici, comme Pierre Clastres, qui était un peu un des initiateurs de ce courant de pensée.
Avec Marshall Salins.
Avec Marshall Salins,
c'est exact. On n'a pas parlé. C'est sans doute un défaut. On aurait dû parler de lui parce que.
Moi, ça fait des années que je veux qu'on en parle. Hein.
De Marshall Salins.
Ouais,
on n'a jamais chroniqué un de ses bouquins.
À chaque émission, j'en parle.
C'est lui qui a écrit.
J'essaie d'en parler, mais après, je suis bâillonné. Moi,
tu es bâillonné. T'as été réduit au silence. Parce que Marshall Salins, c'est celui qui a écrit un bouquin très très célèbre qui s'appelle H de pierre, H d'abondance.
Dont nous allons vous parler ce soir.
Non, on va pas en parler non plus.
D'accord. Alors, Homo Domesticus, James C. Scott, une histoire profonde des premiers États. De quoi s'agit-il dans ce livre, Michel ?
Alors, il s'agit essentiellement d'une synthèse des écrits d'archéologues, des gens qui sont intéressés au passage de ce qu'on appelle le paléolithique au néolithique. Et donc, globalement,
c'est il y a longtemps, ça.
C'est il y a très longtemps. Ouais. Donc, c'est à partir de sources essentiellement matérielles, quelques-unes.
Des fouilles.
Des fouilles, ouais. Des ossements. Ce qu'on peut retrouver à partir des ossements, on peut retrouver énormément de choses à partir des ossements, c'est-à-dire qu'à partir des ossements, on peut savoir ce que les gens mangeaient, on peut savoir quelles maladies ils avaient, on peut savoir quelle taille ils faisaient, on peut savoir plein de choses en réalité. Et donc, à partir de là, on peut savoir quelle était la faune et la flore qui les entouraient, et donc dans quel écosystème ils vivaient. Et James C. Scott n'est pas du tout un spécialiste de ça, il le dit d'entrée.
C'est pas un archéologue de formation.
C'est pas un archéologue. Ouais. Simplement, à un moment, il se retrouve à devoir faire un cours dans une fac quelconque aux États-Unis. Et il se dit qu'il va peut-être reprendre un cours justement sur les premiers états. Et il commence à lire la littérature récente. Et il s'aperçoit d'une chose, c'est que globalement, ce qu'il avait dans la tête, ce que moi j'avais dans la tête avant de le lire aussi d'ailleurs, est complètement faux.
Moi, ça fait des années que je te le dis aussi, ça. Mais bon,
oui,
c'est pas.
Mais je te crois pas parce que toi, t'as pas d'autorité suffisante pour me dire ça. Et en plus, t'as pas d'argument. Tu le dis juste comme ça, tu le répètes.
Pour rigoler un peu.
Non, je sais que tu rigoles pas.
Alors, qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est faux ?
Qu'est-ce qui est faux ? Globalement, c'est ce qu'on appellera le récit standard.
Ouais.
Pour aller vite. Et le récit standard, c'est quoi ? C'est pendant des milliers d'années, des pauvres êtres humains faméliques et à moitié morts de faim. Passent leur temps à chercher des animaux morts, des animaux vivants à capturer et des fruits et des plantes à cueillir. Donc c'est des chasseurs-cueilleurs du paléolithique.
Tu te rappelles les dates là, du coup on a dit c'était il y a très longtemps, mais
alors les dates elles sont globalement alors les dates ce qui serait important à savoir c'est
mais l'échelle c'est quoi, c'est 5000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans?
Non, l'échelle c'est plutôt 200 000 ans.
Ah oui, d'accord, oui.
Voire 300 000 d'après les informations récentes dont je dispose, c'est-à-dire que voire 400 000 si on prend l'invention du feu. Bon, c'est-à-dire que c'est du très très long cours, c'est ça qui est important.
Et le passage là que tu signales.
Et le passage.
Du paléo au néo.
Alors justement, c'est ça qui est discutable, c'est que c'est très très intéressant de le resituer.
Le paléolithique, c'est vraiment les premiers hommes ultra premiers quoi.
Non,
c'est les deuxièmes.
C'est un peu plus tard, parce qu'en fait, c'est une histoire qui s'étale sur 6 millions d'années, tout ça. Hein. Si on parle de l'évolution.
On va pas avoir le temps, là.
Si on parle de l'évolution des homininés, puis des hominidés, tous ces trucs-là, c'est sur des millions d'années. Là, on est sur du court terme, c'est-à-dire qu'on parle que de centaines de milliers d'années.
Et le néolithique, du coup, rappelle-nous.
Le néolithique, globalement, alors là, il n'indique pas. Ça commence à partir de moins 6-7 000.
Ah oui, d'accord.
Avant Jésus-Christ.
Bon, c'est façon donc c'est, la, c'est, des c'est la préhistoire récente.
C'est la préhistoire relativement récente.
D'accord.
Et globalement, l'idée que presque tous les gens qui sont un tout petit peu intéressés de loin à cette question, c'est que les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des conditions épouvantables.
Ça c'est le paléo.
Ça c'est le paléo. Ouais. Donc c'est avant la domestication des plantes et des animaux.
D'accord.
Le paléolithique, pour aller vite. Hein.
Donc survie.
Alors je dis peut-être une bêtise parce qu'il y a des distinctions qui se recoupent et je suis pas spécialiste. Ouais. Donc les auditeurs corrigeront si jamais je dis des grosses bêtises. Mais
du coup la plupart n'y connaissent rien. Donc en fait on est tranquille.
C'est possible. Mais si on avis des quelques spécialistes qui vont trouver que je dis des horreurs. Donc si éventuellement on oublie paléo et néolithique. D'accord. Globalement, pour être plus précis, l'idée c'est que avant la domestication des plantes et des animaux, les êtres humains vivaient de chasse et de cueillette, et enchaient des ronds de chapeau.
À l'arrache.
Avaient une vie horrible. D'accord. Et l'idée classique, c'est que à partir du moment où on domestique les plantes et les animaux,
ça veut dire où on devient sédentaire, où on commence à cultiver l'agriculture, c'est ça, l'élevage,
c'est ça. On commence à se dire ah là, s'il y a domestication, il y a sédentarisation, et s'il y a domestication, plus de la sédentarisation, il y a aussi la possibilité de faire des stocks. Et à partir du moment où il y a la possibilité de faire des stocks, on se dit que l'État apparaît de façon quasiment nécessaire.
Pour gérer les stocks, pour administrer.
Pour administrer les stocks, pour administrer le commerce, pour protéger les stocks, etc. etc. Et on a tendance à penser qu'à partir de là, comme les êtres humains ont des stocks, ils vivent beaucoup mieux. Voilà. C'est un peu le schéma, le récit, disons, standard.
D'accord.
Tout est faux.
Bon.
Ça marche pas.
Oh merde.
Alors,
Pour plein de raisons. Déjà, alors il faudrait les mentionner. Donc lui, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que si on repart demain, qu'est-ce qu'il a choisi là ? Il est en train de faire des gestes. Si on repart de ma chronologie, il y a moins 400 000 ans environ, au minimum, les êtres humains qui sont pas encore des Homo sapiens sapiens commencent à domestiquer le feu. Mmh. Et à partir de la domestication du feu, ils commencent à maîtriser et à modifier leur environnement naturel. C'est-à-dire qu'ils foutent le feu à des forêts, à des endroits, et après ce qui repousse est beaucoup plus exploitable par l'humanité. Alors, c'est le début pour lui d'un anthropocène faible, c'est-à-dire d'un moment où l'être humain modifie son environnement pour favoriser sa propre survie. Sauf qu'à ce moment-là, nos ancêtres sont environ 1 ou 2 millions. Ils foutent le feu un peu partout pour raser ce qui les embête et que les choses qui les repoussent les intéressent davantage. Et ils modifient leur environnement. Mais ça, c'est il y a 400 000 ans. Et par rapport au récit standard, un des trucs marquants, c'est qu'on s'aperçoit, donc à peu près à moins de 100 000 ans, les êtres humains comme nous apparaissent. À peu près. Il y a des débats parce qu'on a retrouvé des restes au Maroc qui auraient moins 300 000 ans. Donc on ne sait pas trop. Mais donc ça pourrait être encore sur une échelle plus large. Et le truc, c'est quoi ? C'est que les premières traces de sédentarité ont moins 12 000 ans. Okay. Sachant que les premiers états apparaissent en à peu près moins 3 000.
Ok.
D'accord, donc là, il y a déjà un différentiel de 9000 ans.
Ouais. Donc pendant 9000 ans, on a une espèce de...
On a des traces de sédentaires sans état.
Les mecs qui font des stocks sans administration.
C'est ça. Et bon, on s'aperçoit qu'en moins 9000, on commence à avoir de la domestication. C'est-à-dire qu'il y a des traces éparses de domestication des plantes et des animaux. Mmh. Moins 9000, c'est 6000 ans avant l'apparition de l'état. Et pensez, hein, nous on raisonne sur des échelles qui souvent sont bien moins importantes. Et on commence à avoir des premières agglomérations sédentaires, c'est-à-dire des villes, pas des villages, en moins 6000. Là, c'est pour vous te faire un petit peu la chrono. Moins 5000, on a des preuves tangibles de l'existence de villages agraires, qui vivent essentiellement de récoltes et d'esclavage. Et c'est qu'en moins 3000... qu'on commence à voir apparaître des mini-états fortifiés avec qui ont toutes les apparences de l'État, avec un pouvoir centralisé, une administration,
pouvoir de contrainte.
C'est ça. Ce qui fait qu'il y a un décalage énorme en réalité entre la sédentarisation, la domestication et l'apparition de l'État.
Ok. Et donc qu'est-ce que ça implique,
ben, ça implique plein de choses. C'est-à-dire que globalement, on est tendance, lui, ce qu'il veut, James C. Scott, là, dans Homo Domesticus, c'est expliquer l'apparition aussi tardive dans notre histoire de communautés densément peuplées, exploitant une poignée d'espèces de céréales et un cheptel domestiqué, vivant sous l'autorité de proto-États. C'est-à-dire que lui, ce qu'il regarde, c'est qu'au long cours, ça occupe, ce modèle, les deux derniers dixièmes d'1% de notre histoire. C'est-à-dire que ce qu'on a tendance à considérer comme un horizon indépassable, c'est-à-dire l'État qui administre une population et qui gère son surplus, ça occupe moins de 1% de l'histoire de l'humanité. À partir de là, évidemment, c'est là qu'il est anarchiste, c'est qu'il va essayer de relativiser l'importance de l'État dans l'histoire de l'humanité.
Mais de quel point de vue ? Parce qu'à la limite que ça fasse un ou deux ou trois... Si t'as 400 000 ans de chasseurs-cueilleurs quelle différence entre 3000 ou 4000 quoi, c'est ça que je veux dire, les enjeux.
Ah oui, voilà. C'est juste que l'humanité a fait sans doute ses découvertes les plus importantes et a réussi à survivre hors cadre étatique.
D'accord.
Okay. Tout bêtement quoi, ouais. C'est-à-dire que l'État n'est pas une...
Il n'y a pas de nécessité.
Il n'y a aucune nécessité à l'État. Aucune. En termes de survie spécifique, en termes de survie de l'espèce, il n'y a aucune nécessité à l'État. Moi, c'est la conclusion que je tiens du truc. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a pu voir sur la collapsologie et sur le reste, effectivement, on vit dans des circonstances très très particulières qui sont rarissimes dans l'histoire de l'humanité, qui ne sont pas du tout normales, entre guillemets, et ce qui implique aussi que si jamais on ne fout pas trop en l'air notre écosystème, on pourra survivre dans d'autres conditions. C'est tout. C'est pas la fin du monde. C'est la fin de l'État.
Ouais. D'accord.
Tu vois. Est-ce que les conditions. Nous, on est des êtres étatiques, donc les conditions de vie qui nous déplairaient profondément, sans doute. Mais
Et puis il n'y a pas un parc de 400 centrales nucléaires dans le monde à maintenir.
Tchernobyl nous montre qu'on peut survivre à ça.
les espèces. T'as passé des bonnes vacances, on dirait.
Toi, dis donc, là, tu reviens effectivement. Bon. Les espèces animales survivent avec davantage de mutations, une mortalité plus fréquente et plus jeune, mais elles se reproduisent.
Donc, toi, ça, c'est la lecture que t'en fais, c'est-à-dire effectivement qu'il n'y a pas de nécessité de l'État pendant des millénaires.
Mais
c'est
ça. Centaines de milliers d'années.
Ouais, centaines de milliers d'années, mais après, même y compris quand il y a sédentarisation, quand il y a agriculture,
et même en fait,
quand
c'est beaucoup plus long, parce que ce qui va dire
ça déclenche pas forcément administration, centralisation, étatisation,
et même si on va plus loin, c'est vraiment ce qui montre, j'y reviendrai sans doute, parce que là on en parle un petit peu dans le désordre, mais ce qui montre, c'est que même l'État moderne, tel que nous on le connaît, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de contrainte sur l'ensemble du territoire qu'il est censé administrer, ça date de 1600. À peu près. Et même à ce moment-là, l'État est souvent très très faible.
C'est
l'État moderne, mais l'État moderne, en fait, c'est le 19e siècle. C'est-à-dire que la forme politique dans laquelle on vit et qui semble à tout le monde totalement indispensable et nécessaire, c'est une forme qui a en réalité moins de 200 ans. Et ça, je trouve que c'est quand même très très intéressant, et il montre comment dire... Bah justement, lui, son objectif, c'est d'essayer de montrer comment les premiers États sont apparus et quelles ont été leurs conséquences. Et il le fait à partir de bases matérialistes qui sont, pour moi, une forme de bon marxisme. C'est-à-dire qu'il essaie vraiment de montrer comment une superstructure comme l'État peut apparaître à partir d'une infrastructure telle que quelles céréales on va cultiver. Enfin, ou quelle plante on va cultiver. Parce qu'un des trucs centraux qu'il va montrer, c'est que quasiment tous les États sont apparus sur la base de céréales qui poussent une fois par an et qui sont facilement repérables et comptables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État du manioc ou de la patate. Par contre, il y a des États du blé, du maïs, du millet et du riz.
Parce que c'est quoi ? C'est une fonction de planification des récoltes, du coup ?
C'est un pur problème de repérage. Le manioc, tu le plantes, et il peut rester comestible en terre 2 ans. Et c'est pas forcément facile à repérer, c'est pas forcément facile à compter et à prélever. Le blé, tu le plantes une fois par an, ça pousse toujours au même moment. Et une fois que tu l'as récolté, c'est très facile à compter. Ce qui fait que même avec un état très faible, avec peu de collecteurs d'impôts, c'est très très facile de contrôler la production du blé.
Mais pourquoi ça te nécessite l'apparition d'un contrôleur ?
Là, justement, le contrôleur n'est pas nécessaire. Par contre, le blé est nécessaire au contrôleur.
D'accord.
Tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir des comment dire,
oui, t'as un état qui se plante, qui va s'arracher les cheveux. C'est ainsi, si tu dois contrôler la
production
de manioc.
C'est ça. Si tu veux contrôler la production de tubercules ou de légumineux qui poussent de façon bizarre sous terre ou qui peuvent se récolter plusieurs fois par an, etc., etc. C'est très très facile pour une population de planquer les récoltes à un contrôleur d'impôts.
Mais tu peux, et c'est ce qu'il dit aussi, d'après ce que tu suggérais, tu peux aussi avoir des sociétés villageoises pré-étatiques qui cultivent des céréales sans qu'il y ait d'État.
Complètement.
Donc le facteur, là, il a des hypothèses là-dessus sur le facteur d'apparition de l'État.
Je reprends mes notes globalement. Donc ça, je l'ai dit, oui, c'est-à-dire que les... Alors, repose ta question, s'il te plaît.
Oui, la question, c'est de savoir si effectivement t'as certaines céréales comme le blé, parce qu'ils sont prévisibles, parce qu'ils sont plus faciles à gérer, qui peuvent permettre justement l'efficacité d'une administration d'État ou de pré-État. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a des sociétés humaines qui ont pu cultiver des céréales de ce type-là sans que l'État apparaisse. Donc du coup, c'est une condition nécessaire.
Mais pas suffisante. Voilà. C'est ce qu'il dit. La sédentarisation précède de très très longtemps l'État. Ouais. Elle est liée à des zones humides. Parce qu'un des trucs qu'on a oublié, c'est que les premiers États apparaissent dans ce qui aujourd'hui est l'Iran, l'Irak, dans le Moyen-Orient. Et c'est dans des zones qui sont écologiquement très très riches. Et on a eu tendance à penser que c'était l'État qui avait fourni des sources d'irrigation et qui avait été la source de l'abondance. Et il semble que l'archéologie montre qu'en réalité, tu avais des populations de chasseurs-cueilleurs sédentaires qui profitaient d'une zone écologiquement très très riche, où tu avais beaucoup de migrations d'animaux qu'ils pouvaient chasser, et où tu avais des plantes différentes qui poussaient suivant les saisons et suivant la montée et la descente des eaux.
Donc ils avaient une forme d'abondance liée à l'environnement à l'écosystème dans lequel ils étaient.
Oui.
Et qui du coup impliquait pas, qui passe par une gestion centralisée de type État, c'est ça
c'est
en fait qu'il dit.
D'accord. Et ça, ça a duré des milliers d'années.
Et donc les organisations, c'est quoi concrètement? Il décrit un peu, c'est quoi? C'est des villages, des groupes de villages, des familles,
alors,
des
clans,
ça,
on des tribus, sait très peu de choses.
Ouais,
ça, c'est très compliqué parce que
quand t'es dans la préhistoire,
très près. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il semble que quand un État apparaît, il peut pas s'empêcher de construire des statues, de faire des fortifications, tout un tas de trucs qui sont relativement inutiles avant lui, avant la concentration de richesses et de stocks gigantesques. Avant le prélèvement de la plus-value, pour parler en termes marxistes. Ce qui fait qu'il y a... Mais comme on a une vision très très étatisée des choses, pendant longtemps, les archéologues ont eu tendance à interpréter comme un signe d'État la moindre trace de sédentarisation. Et aujourd'hui, ça s'est remis en cause depuis une vingtaine d'années par des archéologues, entre guillemets, récents, qui ont tendance à dire, en fait, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'il y a des traces de sédentarité qui ne sont pas reliées à des États. Parce que tu as juste un village... des tout petits trucs sans murailles où on retrouve pas de comment dire, on trouve les traces d'une petite population, ça compte beaucoup, les états c'est
les plutôt
des effets d'échelle, t'as plein de trucs comme ça, donc de ce côté là c'est plutôt des villages après avec des gens qui sont capables de faire des migrations pendulaires. Un peu comme les Indiens d'Amérique, qui n'étaient pas des vrais nomades. On a souvent pensé qu'ils étaient nomades, en réalité, ils suivaient certains groupes d'animaux, où ils avaient des campements d'hiver, des campements d'été, et il n'y avait rien de nomade chez eux. Donc globalement, ça c'est... on pourrait dire, lui ce qu'il va montrer, c'est que, par rapport au récit standard que j'avais dit, que j'avais un peu décrit au départ, c'est que lui ce qu'il affirme, c'est que les chasseurs-cueilleurs avaient sans doute une meilleure vie que les agriculteurs, que les premiers agriculteurs. Ça se voit sur les squelettes.
Ils étaient en meilleure santé ?
Ils étaient en meilleure santé. Pour plein de raisons. D'une part, il y a moins de stress, comment dire, sur les corps. Hein. On voit ça à travers les os. Et d'autre part, un truc qui est, alors ça j'y reviendrai après peut-être, qui est intéressant, c'est que l'apparition des premiers états, ça a coïncidé avec aussi, sans doute, l'apparition des premières épidémies, liées à la concentration de grands groupements humains, d'animaux et de plantes. On partage quelque chose, c'est un truc fou, comme 90% des maladies qu'on a avec les animaux domestiques. Mmh. Et il y a beaucoup de traces de premiers états où on a l'impression qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Et une des hypothèses d'explication de cette disparition, c'est justement l'apparition d'épidémies virulentes que les êtres humains n'avaient jamais connues et qui étaient liées à la fréquentation des animaux et à des maladies qui se transmettaient. On va couper un peu.
Ouais. Et puis après, on va dire un peu plus sur l'apparition de ces maudits états. Mmh.
Thank you.
Salut à tous, c'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et Jeudi Noir qui fait son émission de rentrée aujourd'hui, avec la présentation par Michel d'un livre de James C. Scott qui s'appelle Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états, et qui est un livre, une étude qui se situe sur le terrain de l'histoire de la préhistoire, même puisque là on est sur des périodes très très anciennes, de la préhistoire, des sciences politiques et de l'anthropologie. Hein, si on peut résumer les choses comme ça. Et à l'instant, tu nous expliquais comment une des thèses les plus intéressantes du livre consiste à dire que, contrairement à ce qu'on a raconté longtemps, il n'y a pas du tout, il semble-t-il, au vu des dernières recherches, il n'y a pas du tout de nécessité de l'apparition des États. Longtemps, on a pensé que l'État apparaissait dès que les hommes se sédentarisaient et passaient à l'agriculture ou à l'élevage, et qu'il y avait une nécessité, du coup, tout de suite, d'avoir un État pour organiser la production, les récoltes, la gestion des stocks, des surplus, etc. Et en fait, il semblerait que ce soit beaucoup plus compliqué que ça, et que pendant des siècles, voire des millénaires, il y a eu des hommes qui sont organisés de manière sédentaire et sous diverses formes, tu disais, et qui n'ont pas éprouvé le besoin du tout de faire émerger un appareil d'État, d'administration, de contraintes sur les personnes, de centralisation des autorités, etc. Enfin, les caractéristiques habituelles de l'État. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et tu nous disais que parmi les conditions qui rendent possible un État, mais qui ne le rendent pas nécessaire, il y avait notamment le type de culture pratiquée. Hein, et tu disais que la culture de certaines céréales est plus favorable à l'apparition de l'État, notamment quand la culture est prévisible, est fiable et régulière, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais du coup, alors, moi, la question que j'avais envie de te poser là, tout de suite, alors je précise juste, on a, par la pause musicale, on a écouté ensemble un morceau d'un groupe qui s'appelle Gênes, qui s'appelle Zédentarié Dad. C'est un groupe, un groupe portugais, voilà, que vous pouvez retrouver sur le podcast de l'émission. Et oui, la question que j'avais envie de te poser là, sur le rapport qu'il y a entre la sédentarisation, l'urbanisation et l'apparition de l'État. En fait, comment ça se pose ça? Tu sais qu'il y avait souvent, effectivement, on retrouvait maintenant des petites unités, des villages, des petites unités urbaines, mais qu'il y a visiblement peu de villes sans État.
Alors, des grandes villes, en tout cas, d'après ce qu'il décrit, comment définir un État? Parce que ça revient un petit peu à ça. Lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il n'y a pas une définition absolue de l'État. Pour lui, l'État, c'est un gradient. Il y a plus ou moins d'État. Bon. Malgré tout, il y a quelques traits qui va attribuer à l'État et qu'on retrouve dans presque tous les premiers États, ceux qui apparaissent en Mésopotamie. Alors, j'essaie de retrouver le passage sur justement ce plus ou moins d'État, et en gros ça va se définir très très souvent par des constructions somptuaires type statues, murailles et autres. Après il faut qu'on retrouve aussi des traces de fonctionnaires, donc des tablettes, des choses comme ça, des traces d'esclavage, parce qu'il n'y a pas, d'après lui, les premiers états reposent quasiment tous sur l'esclavage. L'esclavage précède les états, ça fait partie de ces conditions qui sont nécessaires à l'apparition de l'état, mais qui ne sont pas suffisantes. Il semble que l'esclavage donc précède l'état. Ensuite, l'état va se servir énormément de l'esclavage. Les premiers états auront besoin de beaucoup d'esclaves pour prospérer, pour plein de raisons. Et ce qui fait que, enfin bon, ça se retrouve dans beaucoup de choses. Et donc toutes ces conditions là, aussi des centres commerciaux, des nœuds un peu commerciaux où on vient échanger des produits, et tout ça fait que il semble, d'après ce qu'il raconte, que l'État est un petit peu indissociable de la ville. C'est-à-dire que
t'as des effets
d'échelle super importants, ouais. Ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation, parce que bon, une des grosses questions qui se posent sur l'effet d'échelle, on discute un peu à bâton rompu, c'est que on s'aperçoit que dans la fondation des premiers états, les premiers états sont extrêmement fragiles. Une des raisons de la fragilité de l'état, c'est que d'une part les chasseurs-cueilleurs vivent mieux, et il semble que beaucoup de population aient fui l'état. l'État n'était pas vu comme beaucoup de gens ont résisté à la sédentarisation. C'est un des premiers objets d'étude de James C. Scott. C'est des populations qu'on trouve en Asie du Sud-Est, de la Chine à l'Inde, et des gens qui vivent dans des coins reculés et qui veulent surtout pas d'État, et qui cultivent des choses bizarres, qui ont plein de langues, et il pense que ce sont des gens qui ont fui les États naissants. Et qui ont résisté très longtemps, en fait, à l'étatisation, du fait de la pauvreté des États locaux qui n'arrivaient pas à construire des routes, à construire des voies de communication qui leur permettaient de mettre la main sur ces gens-là. Actuellement, c'est des zones qui ont disparu, c'est ce qu'il appelle Zoomia. Et donc, il semble que les premiers États avaient des problèmes pour concentrer leur population. Un, parce que les gens fuyaient. Deux, parce que quand on concentre de nombreux êtres humains dans une zone, on multiplie la possibilité d'attraper des maladies. Et donc c'est comme ça qu'il y a pas mal de traces des premiers états où on a l'impression qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Alors il peut y avoir des causes externes, type invasion barbare, mais il peut aussi y avoir des causes internes, type épidémie qui rase complètement la ville. D'autant que les populations, c'est un petit peu ce qui s'est passé en Amérique du Sud avec l'arrivée des conquistadores, c'était le fait que ils sont confrontés à des virus pour lesquels ils ne sont pas adaptés, et donc ils tombent comme des mouches. Et toutes les maladies qui aujourd'hui sont très répandues chez nous semblent être apparues au moment des premières grandes cités sédentaires humaines. D'autant que, comme je l'ai dit avant, on partage plein de maladies avec les animaux domestiques. Donc les premiers états étaient assez fragiles, ils essayaient de concentrer leur population, et j'ai oublié la question que tu m'avais posée au départ.
Tu viens d'y répondre, hein. Le rapport entre l'urbanisation, c'est effectivement les échelles d'échange, et la concentration,
et donc sur l'échelle,
et donc
je rebondis, c'était ça. Là où je voulais en venir, c'était sur cette question d'échelle. Un des trucs, c'est que on pourrait se demander pourquoi est-ce que si les états avaient autant de mal à garder leur population, qui perdait soit du fait de la fuite, soit du fait des maladies, soit du fait des guerres, etc., comment est-ce que les états ont-ils pu prospérer à ce point ? C'est une question qui pose. Et là, tu as un effet d'échelle qui est très intéressant, et c'est une explication matérialiste que je trouve assez intéressante aussi. C'est qu'il montre, à partir d'études qui ont été faites par d'autres, que globalement, le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs, ainsi que leur mode de vie, n'encourageait pas une grande reproduction de l'espèce. C'est-à-dire que les femmes et les hommes qui vivaient sur ce mode-là avaient un contrôle des naissances, et du fait de leur alimentation basée essentiellement sur des protéines et sur des fibres et sur des fruits et coques, en fait on s'aperçoit que les femmes qui ont ce régime alimentaire-là longtemps sont fertiles moins longtemps et font moins d'enfants du fait d'un contrôle social. Alors que dans un régime sédentaire avec céréales, donc avec glucides, on a des femmes qui font plus d'enfants et qui sont plus fertiles. Qui sont fertiles plus longtemps, pardon. Il semble que malgré les pertes occasionnées par les maladies, le taux de fécondité était légèrement plus important, très légèrement, moins quelques pourcents, mais sur 1000 ans, 2000 ans, ça fait une différence colossale.
Ouais, sauf que les expansions urbaines, elles sont pas continues sur 1000 ou 2000 ans.
Non, parce que ce qui montre, c'est que dans les premiers états, t'as des grosses chutes.
Ouais, mais des gros booms.
T'as des gros booms, mais t'as aussi tout un tas de périodes où justement, on pourrait avoir l'impression, par exemple, entre moins 10 000 et moins 5 000, avec les débuts de la sédentarisation, on passe il dit à moins 35 000, on est à peu près 3, il y a à peu près 3 millions d'êtres humains sur Terre. À moins 10 000, on n'est que 2,4 millions. Entre 2 et 4 millions, pardon. Moins 5 000, on passe à 5 millions. Donc c'est très peu, en fait. En 5 000 ans, il y a très peu en plus. Et à moins 2 000, on a 25 millions. Et ce qui l'intéresse, c'est que là-dedans, t'as des grosses chutes. C'est que le début, après, à un moment où les États ont atteint une espèce de rythme de croisière, quoi, où ils arrivaient à peu près à faire survivre leur population. Mais les débuts de l'État sont compliqués en termes de population, mais t'as un effet d'échelle lié à tout un tas de facteurs nutritifs, sociologiques et autres, qui font que les États vont se développer un petit peu de façon massive avec des grandes villes très peuplées. Avec des grosses villes avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui étaient complètement nouveaux. Bon, ils ont un taux de mortalité épouvantable. Mais entre les guerres qui visent à capturer des esclaves et le reste, ils arrivent à s'en sortir.
D'accord, d'accord. Ouais.
À peu près.
Et donc ça, effectivement, c'est une historiographie qui est nouvelle, quoi.
Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, ce qui était planté dans le décor, c'était que voilà, de sédentarisation égale nécessité de gestion des stocks, égale état, égale du coup dynamisme urbain, égale extension, voilà,
des égale bonheur,
égale bonheur, oui. Égale, enfin égale confort.
Égale confort.
Confort.
Et ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que, de toute évidence, les bénéficiaires des premiers États sont les élites des premiers États, alors que les populations soumises aux premiers États sont maltraitées. T'as des déplacements de population massifs dont on a des preuves, t'as énormément d'esclavage, t'as énormément de coercition. Ouais. Parce que l'État, à ce moment-là, est essentiellement. Alors, il reprend un concept de Deleuze et de Guattari dans Mille Plateaux. Bouquin de 1982, s'appelle Appareil de capture. C'est-à-dire que, d'après lui, l'État, les premiers États, ne visent qu'à confisquer le surplus produit par les populations sédentaires. Sachant que les populations sédentaires ont un gros problème, c'est que quand on vit essentiellement à partir d'une espèce végétale qui ne produit qu'une fois par an, en réalité, on est soumis au climat et par conséquent, c'est très compliqué. Très très compliqué parce que la plupart du temps, le climat ne se plie pas à notre volonté, malgré tout un tas de choses qu'on peut essayer de faire.
La production des surplus est très aléatoire.
La production du surplus est relativement aléatoire, mais l'État, lui, veut toujours avoir le même surplus. Ce qui fait que il semble que justement ça faisait partie des gros problèmes des États ça explique le fait que beaucoup de premiers États étaient très très fragiles et que dans l'histoire de l'État t'as autant d'effondrements de l'État, voire plus d'effondrements et de décadence de l'État que d'États qui s'accrochent bien. Par des États les plus importants qui a essayé de moderniser les trucs en Chine, c'était l'Empire Qing, il a duré 15 ans. Pendant 15 ans, ils essaient de tout contrôler.
Mais en fait, ça veut dire
ils se cassent la gueule pendant des centaines d'années.
Et ça consiste à dire que l'apparition des États, c'est d'abord et essentiellement l'apparition d'une espèce de structure parasite, quand même.
Oui. C'est sa thèse essentielle. Je pense qu'on pourrait le résumer à ça. C'est une de ses thèses. C'est une structure parasite qui vise essentiellement à capturer le surplus produit par des gens et pour entretenir une classe oisive minoritaire. D'où la construction de trucs complètement inutiles, comme de mener éventuellement
des dépenses somptuaires, etc.
Des murailles, des dépenses somptuaires, des grandes statues, tout un tas de trucs qui n'avaient pas du tout été nécessaires auparavant. Donc, c'est, je trouve assez, assez intéressant là-dessus, parce que ça se base sur des données très très économiques, et plus que ça, même biologique, sur comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est plein. Parce que quand on est plein, c'est compliqué de bien vivre. Sachant que les êtres humains vivaient plutôt en petites bandes.
Et après, est-ce qu'il n'y a pas, je pose des questions peut-être un peu décalées, mais t'as une définition, si tu considères ça, effectivement, l'État comme une espèce de structure parasite qui veut choper sa part de surplus de manière constante, quels que soient les aléas, voilà. Ça marche comment concrètement? Parce que alors du coup évidemment on n'a pas d'éléments, mais
oui.
C'est une définition de structure, mais c'est un peu abstrait quand même.
On a quelques éléments, c'est-à-dire on a quelques éléments à partir de la géographie et de réflexion et de spéculation, parce que évidemment on manque d'éléments empiriques ultra concrets, parce que très très souvent quand les États disparaissent, il n'y a pas de traces. Des traces écrites. Les traces écrites sont plutôt des odes à la gloire de l'État. Donc elles sont écrites en règle générale, pareil pour l'État, donc c'est un peu compliqué. Mais ce qui semble apparaître par rapport à ça, comment dire?
Parce que dans tout ce que tu dis, effectivement, et c'est l'avantage de ces analyses-là, c'est que c'est une analyse très matérialiste, comme tu dis. Et tu as toujours effectivement, du coup, la question qui se pose.
Comment ça marche?
Comment ça marche? Est-ce que ça comment suffit ça à partir de quand t'as, tu vois, je sais pas, sur une ville de 20 000 habitants, à partir de quand tu vas avoir 1 000 mecs suffisamment organisés, suffisamment...
Alors tu vois, ça, on n'en sait rien.
Et voilà, parce que
ça,
c'est
absolument. Pour le coup, je crois qu'il évoque un peu cette question. J'en sais pas. Le truc, c'est que ça, effectivement, ça échappe complètement.
T'as pas d'analyse, t'as pas de place pour une analyse de voilà, des phénomènes d'autorité, des phénomènes de prestige.
Alors non, il le dit lui-même. Ouais, ça, on sait pas. L'hypothèse la plus classique, c'est que globalement, le sens de la réponse que je pourrais donner à ta question, c'est que lui, il analyse les populations dites barbares et les populations, et les populations à État, enfin ou les États, les gens qui tiennent l'État, comme des concurrents armés qui sont justement en lutte pour saisir le surplus des populations sédentarisées. Mmh. Donc peut-être qu'une de ces hypothèses, c'est que tu as des populations sédentarisées parce que c'est plus pratique de rester sur place, qui exploitent donc différents, plein de choses, les animaux qui passent, les plantes qu'on peut trouver à droite à gauche. Bon. Et là-dedans, tu peux imaginer que tu as des personnes avec des armes qui vont essayer de se dire, le free rider de l'économie capitaliste classique, comment est-ce que je pourrais profiter de ça sans bosser? Et donc, tu peux avoir les invasions barbares du type, on passe, on fait une razzia, on capture tous les surplus et puis on se sauve. Mais tu peux aussi avoir des gens qui se disent, on va rester sur place et puis on va soumettre les gens qui sont là. Et ce que montre James Siscott dans Homo Domesticus, le bouquin là, publié à la découverte.
Donc il faut qu'il conquête quand même.
À un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait soumission par les armes. Ouais. Et il y a tout un tas d'hypothèses qui sont assez intéressantes, du type la muraille de Chine, la fameuse muraille de Chine. Certains anthropologues, archéologues disent qu'elle était là autant pour empêcher les barbares de rentrer que pour empêcher les gens de sortir. Sachant aussi que les barbares pouvaient jouer un drôle de jeu face à l'État, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de preuves montrant que les dits barbares, bon, je dis ça pour simplifier la chose, hein, en gros des nomades armés qui vivent essentiellement de pillage, étaient intéressés par les populations qui vivaient sous État, parce que les États à l'époque étaient trop faibles pour défendre leur propre population de la prédation d'envahisseurs quelconques. Et donc t'avais des barbares qui en gros faisaient chanter des États en disant donnez-nous ça sinon on vient vous piller. Donc tu avais des échanges comme ça, mais il y a aussi l'idée que les barbares ont pu faire peur aux gens sédentarisés et les empêcher de s'enfuir de l'État. Alors ça c'est une histoire compliquée, mais ce que dit James Siscott, c'est que l'État, les premiers États sont essentiellement fondés, alors ça c'est important par rapport à la philosophie politique classique dont on peut avoir hérité, c'est que pour lui les premiers États sont quasiment forcément fondés sur la coercition. Sur l'esclavage, sur le servage et sur le fait de maintenir les gens là où ils sont en les obligeant à y être.
C'est une espèce de pillage institutionnalisé.
Et il y a des preuves de ça dans les déplacements de population. C'est-à-dire que on a trouvé des traces de déportations de dizaines de milliers de personnes qu'on a déplacées sur des centaines de kilomètres pour qu'elles viennent cultiver quelque part quelque chose. Tu trouves ça aussi dans les États, dans les premiers États dont on a des traces historiques un peu marquantes comme Rome. Ou dans la Grèce antique, où justement ce sont réellement des états esclavagistes, parce que l'essentiel de la population productive est esclave. Et une de ces hypothèses de travail, c'est que les premiers états sont fondés quasiment uniquement là-dessus. Parce que autrement, il n'y a pas de motif rationnel pour comprendre comment des populations ont pu accepter de vivre sous un état.
Donc a priori, c'est des envahisseurs qui s'installent.
C'est ça, on peut dire ça comme ça. Ou c'est des locaux qui prennent des armes et qui soumettent ceux qui sont sur place et qui n'ont pas d'armes. Mais effectivement, il y a... Il n'y a pas de nécessité rationnelle, on pourrait dire, pour la majorité à l'institution de l'État. Puisque c'est une structure essentiellement parasite. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on replace notre histoire actuelle dans ce truc et qu'on regarde un petit peu les choses, on s'aperçoit que l'État est moins parasite après la Seconde Guerre mondiale en réalité. Et que ça dure vaguement pendant les Trente Glorieuses, où là il y a une espèce d'économie capitaliste qui essaie de redistribuer un petit peu les choses parce qu'ils ont peur des communistes. Mais là, comme on n'a plus peur des communistes, on revient à un mode de prédation. C'est-à-dire que essentiellement l'État aujourd'hui est en train de capturer le surplus pour une minorité de riches.
Ouais. Bah c'est l'analyse marxiste.
C'est une analyse marxiste, ouais. Mais elle a pu être elle a pu disparaître un petit peu avec les Trente Glorieuses. On s'est dit que l'État n'était pas essentiellement un parasite, ouais. Mais pour moi on y revient à plein tube. Ouais. On va faire une pause.
Ouais. Une dernière pause musicale. Blah 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 bl
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et vous venez d'entendre à l'instant Agathoclès, un groupe belge, et le morceau s'appelle Domestication, puisque... Oui. C'est de cela qu'on parle ce soir, à savoir du livre de James C. Scott qui s'appelle Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états. Voilà, que Michel nous présente depuis le début de l'émission. Peut-être une question là pour poursuivre sur ce qu'on se disait juste avant la pause musicale. C'est sur ce que tu disais, c'est-à-dire le fait que l'État apparaît comme une espèce d'institution de capture, de pillage institutionnalisé, pardon, extrêmement efficace, et que si on a ça en tête et si on remet ça sur le temps long, parce que c'est ce que fait l'auteur, lui, effectivement, il fait, y a pas de nécessité de l'État, ça, tu l'as dit depuis le départ. L'État n'est pas quelque chose qui va sortir de manière immanente des sociétés humaines, même des sociétés organisées autour de l'agriculture, de l'élevage.
Et pour le coup, ça, c'est pas marxiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolutionnisme.
Exact.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enchaînement nécessaire de conditions économiques qui produit une structure politique et juridique.
C'est ça.
Qui est en réalité parfaitement contingente.
Oui, t'as raison. Et par contre, effectivement, ce qui est à l'origine, c'est la guerre, la conquête et la soumission, en fait, par une minorité des producteurs, en fait.
Donc pas de contrat social, pas d'accord rationnel. Des agents qui se disent on sera plus en sécurité sous le parapluie étatique.
C'est pas la sécurité qui pousse les gens à accepter l'autorité effectivement de l'État. C'est, ils y sont contraints parce que effectivement certains veulent s'emparer d'une part du surplus, mais il faut qu'il y ait surplus. Il faut que ce surplus soit localisé, il faut qu'il soit
localisable, comptable, mesurable et prévisible.
Et du coup, alors ce que tu disais là, effectivement, pendant la pause, c'est la question que les questions que ça pose, c'est aussi ça, effectivement, les rapports entre État et capitalisme, du coup, puisque habituellement, en fait, enfin, dans l'analyse marxiste classique, effectivement, il y a un évolutionnisme, comme tu le dis, et en fait, le capitalisme se développe et à un moment donné a besoin de se donner une structure comme celle de l'État pour changer l'échelle des échanges, pour pouvoir maintenir les taux d'exploitation satisfaisants pour la bourgeoisie, pour pouvoir, etc. Et là, ce que toi tu as l'air de suggérer, en fait, à la lecture du livre de Scott là, c'est qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que tu peux te demander si cette manière de voir marxiste habituelle, c'est pas encore une manière de faire comme s'il y avait une nécessité de l'État, d'une certaine manière. Comme si à un moment donné, l'État avait été, du point de vue du capital, effectivement, là, de ce point de vue-là, mais du coup, effectivement, à la lumière de ce que dit Scott, là, est-ce qu'on peut pas se demander si finalement l'État et le capitalisme ne sont pas les deux faces d'une même pièce, en réalité. C'est les deux faces d'une même pièce, et c'est un fonctionnement qui est très similaire.
Oui, capture de la plus-value.
Capture de la plus-value par une classe minoritaire, et par la force. Mmh. Alors, dans le cas, effectivement, de l'État, de ce que tu racontes, c'est la force, c'est la contrainte physique, militaire, on pourrait dire, presque. Et puis, effectivement, dans le cas du capitalisme moderne, c'est la propriété privée, mais en fait, c'est surtout les gens qui la défendent.
Oui, et puis c'est fondé aussi sur la force.
Sur la force. En dernière analyse, c'est ça qui maintient la chose. Donc, effectivement, on pourrait se demander si c'est pas finalement état et capitalisme, si c'est pas finalement les deux faces d'une même pièce. Mais du coup, ça oblige aussi à déplacer les analyses en remontant beaucoup plus loin dans le temps.
Oui.
Beaucoup plus loin dans le temps. Et du coup, ça oblige aussi à réfléchir à l'extérieur, c'est-à-dire à ce qui n'est pas du capitalisme. Parce que du coup, ça voudrait dire que les organisations décrites aussi par Scott, là, ces villages qui refusent d'avoir une administration centralisée ou une classe un peu prédatrice comme ça, une administration un peu prédatrice, proposent des modèles de production, d'organisation sociale et matérielle qui ne relèvent pas du capitalisme.
Hein. Oui, complètement.
Et qui pourraient aussi effectivement être ouvrir des perspectives, pas forcément des contre-modèles, il ne s'agit pas de revenir au début du néolithique, mais de penser effectivement ce qui a été possible, ou ce qui a été institué.
Ce qui pourrait être de nouveau possible, parce que un truc qu'on a souvent abordé ici à travers différents trucs, c'est, et que Scott aborde beaucoup sur ce qu'il appelle la fragilité des premiers états. Comme je vous l'ai déjà dit, les premiers états étaient très fragiles du fait des fuites de population et du fait des épidémies. Et ça, j'ai tendance à croire que du fait de notre de la brièveté de notre vie et de notre de la faiblesse en quelque sorte de l'échelle de notre réflexion qui est presque liée à qui on est, quoi. Voilà, quand on a du bol, on vit 80 ans dans un endroit à peu près en paix, où on a à peu près à manger. Et on a tendance à limiter l'histoire humaine à ça. Et ce qu'on a tendance à oublier, qui peut-être revient aujourd'hui, comme dans la réflexion, là, à travers la code de l'absologie, c'est la fragilité de l'État tout court. Pas seulement des premiers États. C'est-à-dire qu'on est sur des systèmes extrêmement complexes. Ça, on l'avait vu, hein, avec Servigne et Stevens. Et donc, ce que je me dis, c'est que... d'une part, comme tu dis, j'ai tendance à penser, et les analyses de... comment dire... de Scott m'y font penser, c'est que capitalisme et État fonctionnent ensemble, c'est similaire, simplement l'État tel que nous on le connaît, l'État et l'économie capitaliste tel qu'on le connaît, a porté un processus qui était très ancien à un degré inimaginable de solidité, d'extension colossale. C'est-à-dire que les premiers États, et les États même jusqu'en 1600, sont des États qui sont rikiki, qui contrôlent que dalle, qui n'ont pas d'armée permanente, qui n'ont pas de police permanente, qui n'ont pas de quoi ramasser l'impôt partout comme il faut. C'est des États qui sont complètement troués, qui sont très très fragiles et qui se cassent la gueule au premier truc. Mais malgré tout, c'est déjà des structures d'accumulation, on pourrait dire, de la, comment il dit, Marx, l'accumulation du capital, accumulation primitive du capital. Mmh. C'est-à-dire qu'ils essaient d'accumuler le capital de façon primitive, ils n'y arrivent pas bien. Et au 19e siècle, la bascule, c'est qu'ils arrivent à accumuler de façon certaine le capital. Et si tu compares un petit peu, par exemple, les riches des époques antiques, très très souvent, ils avaient tous leurs œufs dans le même panier, et il suffisait d'une crise économique locale pour qu'ils se cassent la figure. Aujourd'hui, les riches ont réussi à sécuriser leur capital en le mondialisant. Un Bill Gates, il peut acheter des parts du BTP espagnol quand ça se casse la figure. Il sécurise sa fortune en euros, en dollars, en yens, en ce qu'il veut. Mais au bout du compte, c'est le même processus. Mais ce qu'on a oublié dans ce processus-là, là où on a été aveuglé, à mon avis, c'est à quel point le système actuel est fragile. Et l'école absologue nous le rappelle. Après, ils ont une vision qui semble un peu religieuse, un peu apocalyptique du Biniou, qui est un peu embêtante de ce côté-là, je trouve. Ça, tu l'as dit ailleurs. Mais j'ai tendance à... Ouais, je me dis que si le capitalisme s'effondre, l'État s'effondrera avec lui assez facilement, ou l'inverse d'ailleurs.
Et toi, tu vois effectivement dans ces analyses-là des perspectives ou des possibilités, en tout cas des possibilités de réorganisation qui seraient liées qui auraient une espèce de liées à l'espèce humaine ou à la gestion des ressources,
un motif d'espoir, quoi. Ouais. Au sens où en gros, oui, tu vois, si tu prends sur l'échelle historique globale, ok, ouais, nous on crèvera peut-être si tout se casse la figure, mais autrement, ouais, José.
Par rapport à l'émission sur le transhumanisme, est-ce qu'il faut se faire cryogéniser pour voir ça?
José demande s'il faut se faire cryogéniser pour voir ça par rapport à l'émission sur le transhumanisme. Alors j'ai tendance à penser que la cryogénisation, c'est un processus, déjà bon, on sait que ça marche pas, en imaginant que ça marche, c'est tellement complexe et ça suppose tellement d'argent que si tout se casse la gueule entre temps, on jettera ton cadavre à moitié décongelé aux ordures bien avant que...
à moitié décongelé, c'est dégueulasse de lui dire ça, c'est dégueulasse de lui dire
bien
ça.
Bien avant que on puisse voir un nouveau monde. Ensuite, ouais, globalement, il y a beaucoup d'états dans l'histoire qui sont cassés la figure. L'humanité y a très très bien survécu. La plupart des découvertes les plus importantes ont été faites en dehors de l'État par rapport à la survie de l'humanité. Et comme je te disais, à Tchernobyl actuellement, il y a des documentaires assez passionnants qui montrent comment la vie sauvage se porte très très bien non loin de Tchernobyl. Bon, ouais. Il y a des mutations, ils meurent plus jeunes. Mais bon, si tu prends les choses de façon un petit peu horrible.
Ah oui, d'accord.
Non, mais c'est pas ça. Du point de vue de l'espèce.
Oui.
Ce que je disais comme point de vue horrible.
J'adore quand tu commences tes phrases comme ça.
Oui. Bah, du point de vue de l'espèce. En gros, après 40 ans, on est inutile. On est en âge d'avoir des enfants qui sont en âge d'avoir des enfants.
Ouais.
Donc, si la crainte, c'est quoi? C'est la fin de la civilisation telle qu'on la connaît, étatisée, où on bosse 8 heures par jour pour faire de la merde, pour s'acheter des trucs qui nous servent à rien. Bon, Ouais, ça pourrait être la fin de ça. Ça pourrait être aussi la fin d'une vie jusqu'à 80 ans, qui est l'apanage en général des sociétés très très consommatrices en énergie. Effectivement, tout ça pourrait s'achever. Après, est-ce que c'est la fin de l'humanité ? Ben, si on prend le bouquin de Scott, sans doute pas. C'est... moi, je me dis, ouais, 300, 400 ans bien dur à la Mad Max. Et puis, peut-être qu'après, on repart autrement. Pas forcément mieux, hein, mais on repart.
Ça me rassure, moi. Tu vois, quand tu dis des choses comme ça, ça, c'est le Michel qu'on aime, ça.
Moi, ça me rassure
ça,
beaucoup.
Ça, c'est le Michel qu'on aime. C'est le Michel de l'espèce, c'est le Michel du long terme.
De l'espoir. Le Michel de l'espoir.
C'est le Michel de l'espoir. Et du coup, tu vois une bonne raison d'aller lire ce livre, Homo Domesticus. Non, on plaisante parce que c'est d'abord un document sur le.
C'est un super bouquin. Là, c'est les élucubrations que je peux en tirer. Ouais. Ensuite, moi, je vous le conseille de le lire parce que je vous lis simplement la liste des chapitres. Là, je l'ai vu de façon très très générale. J'ai essayé de voir un petit peu les thèses de base qu'il fondait et ce que moi je pensais pouvoir en retirer comme réflexion. Et les chapitres, ça commence sur la domestication du feu, des plans des animaux, c'est assez précis. Après, il parle de justement dans quel contexte on a pu commencer à domestiquer les espèces, qu'est-ce que ça a produit, le complexe de la domus qu'il appelle. Après, il parle justement des maladies et quelles maladies se développent dans un contexte de domestication avec de grandes populations humaines. Donc c'est très précis, il va dans le détail, il va avoir plein de trucs. Moi, j'ai appris énormément de choses en lisant ce bouquin. Après, il essaie d'analyser comment est-ce que l'État, c'est sur quel type de milieu naturel construit entre guillemets par l'être humain, l'État a pu essayer de prospérer. Ensuite, il parle de la guerre, de la servitude et comment est-ce que les premiers États ont réussi à fixer leur population. Il parle de la fragilité de l'État archaïque à la suite de ça, justement. Pourquoi est-ce que les premiers États sont fragiles? Et enfin, il parle du rapport avec les barbares et comment est-ce que les barbares et les États ont pu se concurrencer pour la capture de la plus-value et finir par. Les barbares ont fini par perdre. En entretenant l'État, parce qu'il se faisait aussi embaucher par l'État pour être militaire. Donc c'est un livre qui, à mon avis, est très très riche.
C'est Homo Domesticus, c'est l'État à 5000 ans d'histoire.
Oui.
Pour paraphraser le titre de Graeber.
Graeber, sauf que c'est moins ambitieux que Graeber dans un premier temps. C'est un peu plus fondé des lectures factuelles.
Sur des ossements, quoi.
Et moi, je trouve que ça m'a fait vraiment gamberger, quoi.
Donc, tu conseilles?
Alors, je le conseille à mort.
À mort. Homo Domesticus. James Scott.
Une histoire profonde des premiers états. Chez la découverte. Il a écrit aussi Zoomia, que j'ai commencé à lire. Je vais peut-être le finir, d'ailleurs, parce que ça a l'air bien. Qui parle justement des dernières poches de résistance à l'état dans des coins montagneux, marécageux, où l'état avait beaucoup de mal à s'implanter, avant de devenir un peu surpuissant et de pouvoir construire des autoroutes partout. Il a aussi écrit un truc directement, je pense, une espèce d'éloge de l'anarchisme. Tout n'est pas encore traduit parce qu'il a aussi écrit un truc sur les résistances subalternes, comment est-ce que les gens résistent à l'État de façon un petit peu souterraine, sans le dire. Voilà, donc James C. Scott, Homo Domesticus.
James C. Scott, Homo Domesticus, et la bibliographie à suivre, et donc c'est quelqu'un dont tu nous reparleras.
Il a des chances.
Sans doute un de ces jours.
Voilà.
Voilà.
Avec un message plein d'espoir.
Ben oui, c'est ça. Ouais, à destination de l'espèce.
À l'échelle de 100 000 ans.
C'est ça qui compte. Bon, ouais. Et ben, on vous dit du coup dans 15 jours, à la prochaine émission. Et on vous laisse sur un dernier morceau musical. À la prochaine, au revoir.
C'est Danny Kendrick de sa super cassette. Et c'est la valse d'État.